Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand.
Et avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès, vous publiez Où va notre argent, donc aux éditions de l'Observatoire, des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent. C'est le sous-titre de votre livre. Nous sommes un matin particulier. Vous êtes une sorte de voyante puisque vous arrivez le jour où Gabriel Attal annonce dans Le Parisien tout un dispositif donc pour lutter contre la fraude sociale qui était estimé par la Cour des comptes entre 6 et 8 milliards d'euros, ce qui est alors colossal. Je vous donne les pistes, comme ça, ça vous évitera de les redonner. Vous me direz juste après si vous trouvez qu'on est bien dans la bonne ligne. D'abord, la fusion de la carte vitale avec la carte d'identité. 9 mois de résidence en France pour toucher les prestations sociales. Contrôle des retraites à l'étranger et utiliser le fichier aviation pour savoir si les gens vivent en France ou vivent à l'étranger, pour éviter évidemment toutes les formes de magouilles qui peuvent s'arriver, avec évidemment, en termes et pour être complet, je le disais, en termes de réaction, si jamais ces fraudes sociales sont démontrées comme étant en bande organisée par des 1000 postes qui vont être créés, les amendes pourraient être augmentées de 300 à 400%. Donc le dispositif est quand même assez complet, j'ai pris un peu de temps pour le donner. Est-ce que ça va dans le sens des travaux que vous faites avec l'IFRAP et des livres que vous publiez depuis des années?
Bien sûr, j'ai envie de dire enfin. Enfin, on s'attaque à la fraude sociale. Ça a été un tabou pendant des années. On nous parlait tout le temps de la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est environ 30 milliards d'euros par an. C'est le chiffre que je donne dans le livre. On récupère à peu près 12 milliards d'euros par an. La fraude sociale, c'est 20, moitié sur les prestations. Vous avez cité le chiffre de la Cour des comptes. Nous, on est plutôt autour de 10 que de 8, parce qu'il y a toute une partie qui n'est pas comptée par la Cour, parce qu'ils considèrent que les fraudeurs ne font pas vraiment exprès de frauder. Et puis, il y a 10 milliards sur les cotisations. Donc, ça fait 20 milliards de fraude sociale, et on n'en récupère que 1,6 au total. Donc, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'on a mis le paquet ces dernières années sur la fraude fiscale et sur la fraude sociale, on est vraiment...
Il y a d'ailleurs eu un premier volet Attal qui a été à la fois applaudi par les uns et ultra critiqué par les autres, puisque c'était une manière de dire en gros que les chefs d'entreprise étaient les rois des fraudeurs, et ça a été assez mal pris.
Alors, le premier volet, c'était le volet fraude fiscale, mais c'était pour faire passer la pilule de la fraude sociale, parce que finalement, la fraude fiscale, tout ce qui a été annoncé, énormément de choses sont déjà dans les textes. Donc, le fait de faire d'abord fraude fiscale et ensuite fraude sociale, c'est surtout pour éviter la bronca de ceux qui, en permanence, hein, on l'a vu sur les plateaux télé ces dernières semaines, disent « mais la fraude fiscale, c'est 100 milliards et la fraude sociale, c'est rien du tout, c'est quelques milliards ». Non, c'est faux. Fraude fiscale, fraude sociale, c'est le même combat. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gens qui fraudent les prestations sociales, qui aussi fraudent en réalité les cotisations sociales et les impôts. Parce que quand vous touchez des aides indues, par exemple du RSA, alors que vous travaillez à côté non déclaré, bah vous fraudez la prestation sociale, vous fraudez la cotisation et vous fraudez l'impôt. Donc en fait, vous fraudez les trois. Donc,
la CNAF d'ailleurs évalue à 2,8 milliards. Alors on donne évidemment beaucoup de chiffres, peut-être que les gens ne vont pas tous les retenir, mais à 2,8 milliards, la fraude à toutes les formes d'allocation. Et dorénavant, donc, il va falloir 9 mois de résidence au moins pour toucher les prestations sociales. Tout ça, alors est-ce que vous pensez qu'avec 1000 postes supplémentaires, dont 450 cyber-enquêteurs, est-ce que vous avez l'impression que tout ça est un dispositif suffisamment pour arriver justement à sortir d'un méandre qui est un méandre qui existe depuis des années?
Oui, mais nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est aller encore plus loin. C'est que ce soit les contrôleurs du fisc qui viennent contrôler aussi le social. Et que tout ça se soit complètement fusionné dans des bases identiques. Et que finalement, les aides sociales soient versées par Bercy. Mais on y arrivera, hein, parce que c'est l'étape suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste les caisses sociales qui contrôlent finalement les fraudeurs. Et on sait très bien que dans caisse sociale, il y a social et que finalement, il y a une sorte de tolérance, voire de bienveillance vis-à-vis de la fraude sociale qui est considérée comme de la petite fraude. Donc oui...
Donc plutôt insatisfaite ce matin.
Plutôt. Et c'est vrai que, par exemple, dire qu'on doit résider 9 mois en France plutôt que 6 mois pour toucher un minima social, ça paraît hyper cohérent. Et pourquoi pas d'ailleurs 10 ou 11 mois. Mais pour l'instant, 9 mois, c'est déjà pas si mal. C'est ce qu'ils ont fait pour le minimum vieillesse. Ça a été adopté dans le texte retraite. Le décret n'est pas encore paru. Donc attention, il faut surveiller aussi les décrets quand il y a des annonces gouvernementales, parce que parfois, on fait de grandes annonces, mais on attend les décrets pendant très longtemps. Donc espérons que ça va aller aussi vite que le ministre le dit.
Je vais raviver votre mémoire qui est vivace, ma chère Agnès, le président de la République, avec Gilles Boulot sur TF1 il y a quelques jours. Je rappelle que nous sommes dans un contexte de dette publique à 3000 milliards, ce qui veut dire que si un jour les taux d'intérêt montent à 6-7%, si ça se trouve, l'essentiel de la fiscalité française française sera consacrée au remboursement des intérêts de la dette. Donc c'est assez catastrophique. Alors voilà ce qu'il a dit. Il a expliqué donc, vous vous en souvenez, qu'il y avait eu depuis le début du quinquennat 4 milliards de baisses d'impôts sur le premier quinquennat, plus 2 milliards à venir, le tout sur les classes moyennes, plus l'exonération de la taxe d'habitation, de la baisse des cotisations salariales pour faire baisser le chômage, etc. etc. Et alors vous prenez un point de vue, vous donnez un point de vue qui est, je ne dis pas radicalement différent, mais sensiblement différent, en expliquant qu'entre finalement 2000, enfin de les années 2000 et aujourd'hui, contrairement à ce qui est raconté par les différents gouvernements, l'augmentation de la pression fiscale en France est absolument colossale.
Bah oui, mais parce que tout simplement, je regarde les chiffres qui sont publiés par le budget et on voit qu'en 2022, on n'a jamais payé autant de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire impôts, taxes et cotisations en France. On est à 45,3% par rapport à la richesse nationale. Et si vous reprenez la chronique depuis les années 90, on n'a jamais été aussi haut. Alors c'est vrai qu'il y a des suppressions d'impôts, par exemple la taxe d'habitation, la redevance télé, etc. Mais en face, il y a aussi des augmentations. Par exemple, quand on supprime la taxe d'habitation, les taxes foncières sont en train de flamber. Je fais un chapitre entier dans mon livre sur le sujet. Il y a, donc, vous voyez, c'est un peu le bonneteau à la française. Et alors, je montre dans mon livre qu'en 2017, les ménages y payaient 627 milliards d'euros d'impôts. Et maintenant, en 21, alors c'est le dernier chiffre qu'on a, c'était 681 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une augmentation en valeur. Et en réalité, c'est 54 milliards de plus. Et par rapport au PIB, on n'a pas vraiment baissé. Donc, le problème, c'est que chaque fois qu'on nous dit il y a des baisses d'impôts, il y a aussi des hausses cachées. Par exemple, l'impôt sur le revenu. Au lieu de le revaloriser de la totalité de l'inflation pour pas qu'on rentre dans le barème trop vite et qu'on paye trop par rapport à ses revenus en 2022, bah l'inflation elle était quasiment à 6 et on a revalorisé le barème que de 1,5. Et ça fait que dans les caisses de Bercy, et nous avons payé...
Donc en fait, c'est pas une véritable baisse, mais c'est une moindre hausse compte tenu de l'inflation qui existe, quoi.
En fait, à cause de l'inflation, on a payé beaucoup plus que ce qu'on aurait dû payer, puisqu'on paye en temps réel sur des revenus qui évoluent en temps réel. C'est le principe du prélèvement à la source. Mais on nous calcule sur une inflation des années antérieures à 1,5, alors qu'on a presque 6% d'inflation. Alors, résultat, on paye 3 milliards de trop.
Je vous cite, parce que c'est important, évidemment, les défenseurs d'une politique sociale vous diront que tout ça est très nécessaire au fonctionnement de la protection sociale à la française et du bon fonctionnement de l'État, et évidemment des collectivités territoriales, et évidemment les services publics. On prend la répartition. La sécurité sociale empoche 45 milliards d'euros sur justement les sommes qu'on vient d'évoquer. L'État en prend 34 milliards et les collectivités territoriales en prennent 8 milliards. Les entreprises, vous avez fait un calcul, j'essaye d'être exhaustif mais en même temps d'être simple, parce que c'est pas simple, que c'est un véritable maquis. Les entreprises, si on prend le cas de la France par rapport à l'ensemble des pays de la zone euro, parce qu'il y a toujours des gens qui disent les entreprises ne payent pas assez, etc., etc., eh bien elles ont 148 milliards de prélèvements obligatoires qui sont supplémentaires par rapport à nos voisins. Donc il y a toujours un delta considérable, alors que le débat politique réclame toujours plus de fiscalité à l'égard des entreprises.
Bah oui, c'est un énorme paradoxe. C'est incompréhensible d'ailleurs. On a l'impression qu'on est dans un débat qui est totalement hors sol, en permanence, qu'on ne regarde pas les chiffres. Et nous avons regardé cette chronique depuis...
Parce que c'est une bataille idéologique.
Mais complètement. Mais après, il y a un moment aussi, il faut atterrir. Comment ça se fait qu'on fasse payer autant de cotisations employeurs en plus à nos entreprises par rapport aux autres pays de la zone euro et qu'ensuite on dise « Oh, faut réindustrialiser la France ». Mais c'est bizarre, quand il y a des projets étrangers d'investissement en France, ça crée beaucoup moins d'emplois que dans les autres pays. Bah oui, 30 emplois par projet d'investissement en France quand c'est 120 par projet en Espagne. Alors c'est bien d'avoir plein de projets, mais si ça crée quasiment pas d'emplois en face, ça sert pas à grand-chose. Donc le sujet maintenant, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a 148 milliards de plus d'impôts, cotisations, taxes qui sont payées par nos entreprises tous les ans par rapport à leurs homologues de la zone euro. Si on ne fait rien là-dessus, la réindustrialisation...
Mais ce discours ne passe pas, parce que vous avez vu le dernier sondage, les Français sont totalement hostiles au libéralisme. Donc en fait, le fond idéologique, qui est quand même l'aspect important dans le contexte qui est celui justement de l'examen des chiffres, le fond idéologique, c'est un fond qui est entièrement défavorable au libéralisme et en grande partie quand même aux entreprises.
Oui, mais je crois qu'on n'explique pas les choses comme il faut. Par exemple, la Suède, dès 2004, ils ont supprimé l'impôt sur les successions et les donations pour tout le monde. Pourquoi ?
Alors que nous, on est encore dans le domaine du record.
Mais oui, on est les plus chers. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? C'est pas des libéraux qui ont fait ça ? Ce sont des sociaux-démocrates. plutôt éthique.
Comme les Danois avec l'immigration.
Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que le fondateur d'IKEA était parti en Suisse. Et parce qu'ils voulaient que leurs entrepreneurs, leurs créateurs de richesses, leurs créateurs d'emplois restent sur leur sol. Nous, avec nos débats idéologiques, qu'est-ce qu'on fait? On fait partir les entrepreneurs, on dégoûte les investisseurs, on a 200 milliards qui ont quitté la France à cause de l'impôt sur la fortune, etc. Et on continue d'avoir dans le débat public, comme avec le rapport Pisani, des gens qui disent qu'il faudrait taxer plus encore les riches, les investisseurs, etc. Alors que ce sont eux, et je le montre dans les livres avec énormément de chiffres, on va pas y revenir, que ce sont eux qui payent la plupart de du poids fiscal de notre pays.
Et d'abord, vous donnez des exemples. Moi, je vous les donne. Par exemple, vous donnez les exemples d'une entreprise qu'on connaît bien ici, LVMH. Quand on a donné les comptes de LVMH, le président a ajouté quels étaient les impôts. Les impôts donc sur les sociétés, plus la TVA, plus les charges sociales, c'est pour LVMH 4,5 milliards par an. Alors, 90% de la production est à l'étranger, donc c'est évidemment colossal. Et vous mettez par rapport à ça, alors on va dire c'est toujours une simplification d'Agnès l'idéologue, je dis ça évidemment avec le sourire, vous dites que quand on téléphone à Pôle emploi, une fois sur deux, c'est impossible de les joindre. Quant aux hôpitaux, on a vu une augmentation phénoménale, et on a vu à ça, à cause de la crise du Covid, les gens étaient très peu satisfaits de leur fonctionnement, y compris d'ailleurs les gens qui y travaillent, les médecins à l'hôpital. Vous l'expliquez par le fait que 405 600 personnes à l'hôpital, c'est-à-dire 34% du personnel, au lieu d'être des médecins ou des soignants, sont des administratifs avec une fonction hospitalière, dont les chiffres augmentent d'une manière considérable. Fonction administrative hospitalière.
Et technique. Oui. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'on est le pays qui a le plus de dépenses, le plus d'impôts, de taxes et cotisations. Et en face, on a des services publics qui se délitent. On n'arrive plus à avoir une carte d'identité, un passeport dans un temps normal. Il faut parfois 6 mois rien que pour avoir le rendez-vous. Mmh. On a une école avec des résultats sur la lecture, sur les mathématiques qui s'effondrent. On a un hôpital, vous l'avez dit, qui ne satisfait plus personne. On a 4500 médecins en âge d'exercer qui ont quitté la France. Ça, c'est un signe très, très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démobilise même les meilleurs de notre pays qui sont là, normalement, pour nous apporter le meilleur service public possible. Alors là, il va falloir se réveiller.
Vous avez
réveiller.
Vu la difficulté qu'il y a à faire passer la réforme des retraites, donc il y a une résistance colossale. Demain, mercredi, c'est la commission des affaires sociales qui se réunit. Il y a cette affaire de Lyotte. Ils espèrent faire voter avec les retraites l'Assemblée nationale, même s'ils savent que le Sénat, au bout, annulera évidemment ce vote, mais ils essaient de faire voter un texte contre, donc niant l'idée que finalement, d'ailleurs c'est ce que dit Charles de Courson, il n'y a pas d'urgence à réformer les retraites sur le plan justement de ce que ça coûte à l'État français.
Sauf qu'on n'explique pas la vérité, c'est-à-dire que c'est lié à la dette.
Il dit c'est 300 millions cette année, simplement.
Mais non, mais c'est lié à la dette. Là, on est en train aussi d'avoir un énorme risque d'augmentation du coût annuel de la dette pour la France. Mmh. On était à 39 milliards de votés en 2022, on a dépassé les 50 milliards, on va vers les 70 milliards d'euros par an de coût annuel de la dette. On va dépasser en dette, en coût de la dette, la dépense d'éducation nationale qui est le premier budget de l'État.
Et encore, ça vous rappelle les taux d'intérêt sont fixes, parce que si les taux d'intérêt montent, ça peut être une charge encore plus importante.
On a déjà dépassé les 3% à 10 ans, mais on a dépassé quasiment les 3,3% à 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est clairement sur une pente ascendante du taux pour la France. On va voir la note de la France qui risque d'être dégradée cette semaine. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est
dernier
que
point.
Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit en France d'évaluer la qualité de nos services publics en fonction des euros qui sont mis dans la machine. C'est-à-dire, le coût qualité, c'est tabou. Et ça, nos concitoyens le comprennent. Et à un moment, ils voient cette dégradation et ils ont le droit, et c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils ont le droit de savoir comment est utilisé l'argent public. Si on éclaire tout ça, je peux vous dire qu'ils seront beaucoup plus d'accord pour les réformes, parce qu'ils comprendront que c'est pour améliorer la qualité du service public en dépensant et en gaspillant moins de leurs deniers, parce que cet argent, c'est leur argent, c'est notre argent.
Voilà, après le constat, à la fin, vous trouverez dans le livre d'Agnès un certain nombre de mesures qui sont prises à l'étranger dans les différents sujets qu'on vient d'évoquer, qui sont des mesures qui permettraient d'améliorer la gestion publique. Vous êtes partisane, vous, par exemple, qu'il y ait un frein à l'endettement qui soit inscrit dans la Constitution. Merci Agnès d'être venue
ce
matin.
Ça marche ailleurs, pourquoi pas en France
hein. Voilà. Où va notre argent? C'est Agnès Verdier-Molinier qui signe ce livre aux éditions de l'Observatoire. Il est 8h32, nous avons rendez-vous avec Charles.